Bon, mes amis, eh bien, nous allons ouvrir cet après-midi. Je pense que vous n'allez pas trop dormir. M'entendez ?
Oui.
Non ?
Il faut prendre le rouge. Le rouge, excusez-moi. Merci, monsieur.
C'est le rouge, monsieur.
Voilà, Anne. Merci.
Voyons. Ça va ? Bon. Donc, l'histoire que je vais vous esquisser... sortir mes lunettes, est une enquête d'histoire des sciences, c'est vrai, mais qui entre dans mon projet d'écrire un ouvrage sur quelques chapitres d'histoire de la génétique du développement. Et l'histoire que, enfin, les problèmes que je vais résumer devant vous, ou avec vous, c'est de savoir pourquoi Edward Lewis, qui est peut-être le plus important pour la suite de ce champ de recherche, ne s'est pas intéressé du tout au développement, mais s'est intéressé à l'évolution. Et comme c'était le thème, je me suis dit, c'est une bonne occasion. Et je vous signale que les questions que nous allons aborder sont tout à fait, j'allais dire, actuelles. Je vous rappellerai la thèse de Stefan Schmidt sur les parties répétées, un livre de Lipschitz sur l'œuvre de Lewis et un article dans l'Annual Review of Genetics de 2004. Qui traite également de ce problème, qui est le problème de la duplication des gènes ou du génome. Et on va commencer par là. Donc, si vous voulez, acte premier, Lewis appartient au groupe de Morgan, et donc il n'est peut-être pas mauvais de se rappeler ce que, en 1923, Morgan, avant 1924, sur son livre « Genetics and Embryology », pensait... De ce double champ, lui, le boss de la recherche et des combinaisons génétiques et de la théorie du gène, et dont la première partie de la carrière, vous le savez bien, est celle d'un embryologiste, ami et élève d'Autriche. Alors évidemment, ça n'allait pas, quand il pense à l'embryologie, il pense à celle qu'il a connue. Alors voici ce... texte, enfin cette citation, qui est tirée de la théorie moderne de la génétique et des problèmes du développement embryonnaire, dans la Physiological Review de 1923. Merci. L'embryologiste, alors je traduis rapidement, l'embryologiste observe les changements au cours du développement comme ayant lieu dans le cytoplasme en présence du complexe chromosomique entier. Il est fortement enclin à voir dans le cytoplasme l'agent actif du développement, et parfaitement justifié à le faire avec ce qu'il voit, mais il ne voit pas ce qui se passe derrière la scène. Les données génétiques sont les seules que nous ayons à présent pour montrer que le rôle des chromosomes est ce qui prend place dans le cytoplasme. Le physiologiste est évidemment concerné par ce processus et par tout processus qui se produit dans la cellule, mais il n'a aucun moyen de trouver à présent à quel point les chromosomes peuvent ou ne peuvent pas affecter ce processus. Cependant, je pense qu'il a l'esprit suffisamment large pour concéder que tout changement dans le complexe des facteurs, c'est-à-dire les gènes, présents dans la cellule, peuvent affecter le résultat final. L'avenir dira si la génétique peut, dans un certain temps, développer de nouvelles méthodes pour aborder des problèmes qui appartiennent à présent au domaine de l'embryologie expérimentale. Bien. Alors, parmi ceux qui ont posé le problème de façon remarquable, il faut citer le nom de Dan Paulson à Yale. Il y a même recherche et ces quelques mots... à la fin de son article de 1937, pardon, à savoir que peut-être que la génétique trouvera une approche plus directe dans l'étude des effets du développement en étudiant l'absence ou la présence de certains gènes. Bon, voilà les deux repères que nous pouvons avoir pour aborder l'œuvre de Lewis. Lewis commence ses travaux en 1939, en étant encore, j'allais dire, étudiant. Quelle époque merveilleuse où on peut faire des recombinaisons avec quelques mutations, quelques mouches mutantes. Et alors, si nous pensons à Lewis, nous allons voir qu'il va aborder à proprement parler la génétique du développement en tant que telle, très tard, en fait en 1963, et puis il y aura le grand article, le sommet de ses travaux en 1978. Or, ses premières publications et sa manière de travailler, et même il aborde les problèmes du développement, soit en 1945 où il publie sa thèse, soit en 1950. Alors, pourquoi il s'intéresse à une toute autre question, qui est celle de l'évolution, et je vous mets tout de suite sur la voie, surtout si je parle trop longtemps, s'il va falloir abréger, parce qu'il s'intéresse au problème de la duplication des gènes. Et ça, c'est un problème qui est posé des années 30, qu'il reprend et qu'il connaît très bien, parce que, il est dans le groupe de Morgan et il y a un personnage extraordinaire qui a eu le tort de mourir très jeune en 1938, c'est Calvin Bridge. Et Calvin Bridge est exactement cela. Mais il n'est pas le seul. Il y a Müller, il y a Serebrovski, les travaux des Russes, que tout le monde qu'il connaissait très bien. Bon, alors, voyons cela. Par conséquent, il va prendre un chemin en réponse à des problèmes accessible à l'expérience et non moins essentiel. Je dirais également que ce problème de la duplication des gènes comme source de l'évolution, c'est-à-dire source d'une nouvelle fonction, est un problème qui ouvre une voie de recherche jusqu'à aujourd'hui. Par conséquent, ce qui va se passer avec Lewis, c'est qu'on va ouvrir des voies de recherche qui vont durer très longtemps, si j'ose dire, des chemins de longue durée. Bien, donc deux, la génétique du développement, et deux, et la seconde, antérieure, à savoir le problème de la duplication du gène, puis nous dirons du génome, dans l'évolution. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Rappelons quelques points forts. En 1925, il est élève, il est collègue de Bridge, le patron, lui, au-dessus, et il est élève de Sturtevant, encore tout jeune. Or, en 1925, Sturtevant, avec lequel Lewis prépare son doctorat, fait deux découvertes importantes qui vont mener à un premier, je ne sais pas si c'est le premier, parce qu'on a cessé de réexaminer le concept de gène. Ce concept, Lewis dit très simplement qu'il ne faut pas oublier que c'est une des plus puissantes abstractions de la biologie. Pas étonnant que ce concept ait été révisé, et surtout dans l'esprit de Lewis, parce que la génétique, pour lui et pour le groupe de Morgan, en dehors évidemment de spéculation ou d'intérêt, enfin spéculation, il faut prendre le mot avec précaution, théorique, c'est une science opérationnelle. Et c'est pourquoi le concept est constamment réévalué, bien entendu, parce que ce qu'on lui demande, eh bien, est différent dans différents contextes expérimentaux et techniques. Bon. Ce que je viens de vous dire, que c'est une des plus grandes abstractions de toute la biologie, c'est dans sa conférence Nobel en 1995. Alors, premier réexamen, on peut dire, de la notion de gène en termes de fonction. Et ce sont les suivantes. En analysant la descendance des femelles homozygotes pour une mutation instable de l'œil de la drosophile, bon, je ne passe pas de transparent là-dessus, il prédit que la mutation double dominante, double barre, était une duplication en tandem qui survient dans la descendance des femelles homozygotes comme le résultat d'un crossing over inégal. D'où le titre de sa célèbre étude de 1925, « Les effets du crossing over » par lequel on définit le concept de gène à l'époque, « Les effets du crossing over inégal au locus barre de la drosophile ». La seconde conclusion qui se déduit de ce fait que les yeux de la femelle en hétérozygote étaient légèrement plus petits que les homozygotes stipule que la fonction d'un gène dépend de sa position par rapport à ses voisins. Donc c'est la seconde conclusion de ce qu'on a appelé l'effet de position. 10 ans plus tard, Kelvin Bridge d'une part, Müller en Russie et Prokofieva travaillent sur la question et trouvent que Barr est le résultat d'une duplication d'une petite section du chromosome. Bon. À ce moment-là, on dispose du fameux chromosome géant de la glande salivaire et on voit les différentes bandes, en effet, qui sont en doublé. Bon. Donc, Bridge, dans un article publié en 1935 et qui a fortement marqué Lewis, Lewis a été, quand il rend son hommage à Bridge, pour cette question, il va voir les petites cartes. Vous savez, les généticiens, ils ont des tableaux et des tableaux et des tableaux de recombinaison. Et là, ils mettaient ça sur des petites cartes. Eh bien, Lewis, qui avait ça au Californian Institute of Technology, au Caltech, a attiré l'attention sur les structures en doublet que, depuis cette époque, on appelle des repeats, dans le chromosome géant de la glande salivaire, de la glande de type sauvage. Alors, là, vous allez voir un peu comment ça se présente. J'ai pris un transparent pour que ce soit quand même pas trop abstrait. Continuons donc ce texte de Bridge. Il attire l'attention sur les problèmes que ça pose. Ces structures en doublet fusionnent bord à bord et par conséquent, il se demande si cela pose l'hypothèse de savoir quel rôle jouent ces doublets dans l'apparition de nouvelles fonctions, voire de nouveaux gènes, et évidemment avec l'impact que ça peut avoir sur l'évolution. Alors, ce qu'il faut voir également, c'est qu'il y a un problème qui est dominant au moment où Lewis prépare son doctorat, c'est le problème des allèles multiples. Or, il va travailler sur 2 mutations, on lui fiche complètement la paix, il a toutes les raisons de se casser la figure, parce que les mutations sont très rares. Ce sont les fameuses mutations star et astéroïde qu'il va nommer de l'œil de la drosophile. Et un travail prodigieux, c'est un auteur absolument extraordinaire. Moi, il me fascine, bien sûr, parce que sinon, on ne m'en occuperait pas. Mais difficile à faire passer, parce que c'est un travail de 10 ans sur quelques mutations, sur un segment très étroit du chromosome qui va s'élargir quand la biologie moléculaire va s'emparer de ces mutants. Et alors, c'est extraordinaire, c'est un travail d'une minutie absolument extraordinaire. Ils l'avaient tous, d'ailleurs, puisque ces gens-là ne regardaient même plus les mutations au microscope, ils regardaient ça à la loupe. Ils avaient une habitude. Et alors, qu'est-ce qu'il parvient ? Il parvient à séparer ces 2 mutations qui sont complètement contiguës. Il trouve une recombinaison au miracle, parce qu'il avait toutes les chances de la louper, sur environ 10 000 individus. Bon. Et alors, il va donc commencer à chercher si ce phénomène de séparation, autrement dit, Il ne s'agit pas d'allèles multiples. Et il va s'approprier sous forme de test, qu'on appelle le test cis-trans, à savoir si les deux mutants sont sur un même chromosome ou bien sur un chromosome homologue, un mutant, une mutation sur chaque chromosome. Le résultat n'est pas le même. Et par conséquent, il va avoir là un test, je ne vais pas vous l'exposer, ça va en prendre 5 minutes, il a un test pour voir ce qu'il va appeler des pseudo-allèles de position. Et c'est là qu'il trouve, dans la collection de Bridge, une mutation, puis 3 mutants, 3 seulement, qui affectent le petit balancier de la drosophile, qui sont rapprochés les uns des autres, et il va travailler avec ces 3 mutations. Bon. Donc nous arrivons à... Je passe, il y a d'autres combinaisons, mais j'en arrive donc à ce travail sur 2 mutants, Stubble et un autre récessif, et puis le fameux, ce qu'il va appeler plus tard le complexe bithorax. Bon. Et voici comment il publie ses résultats en 1945. Alors, vous allez voir, c'est tout à fait extraordinaire. D'où l'honneur à l'histoire des sciences, parce que si on ne lit pas ces textes de très près, eh bien, évidemment, le problème perd son côté énigmatique, n'est-ce pas ? Voici ce qu'il dit. Si les structures en doublet sont des repeats, alors, à en juger par leur occurrence répandue dans le chromosome de la glande salivaire, il est probable qu'il y a d'autres allèles, qu'il y a d'autres séries, qu'on en a donc, que l'on peut supposer comme étant des allèles multiples et qui peuvent être résolus en voyant qu'ils ne sont pas au même locus nécessairement. Ce sont des locus dupliqués et en raison de l'effet de position. Et cette duplication peut agir comme unité de développement. Pour la première fois arrive le mot développement ici. Bon. Eh bien, il n'en tiendra aucun compte, n'est-ce pas ? Et nous allons aborder son premier grand article de 1951, et qu'est-ce qu'on lit ? On lit les gènes et l'évolution, les pseudo-allèles, gènes et évolution. Le problème est un problème d'évolution par duplication du gène. Et qu'est-ce qui se passe ? Françoise me regarde, c'est une discussion sur les fonctions, ma belle. Eh oui, parce que le problème est de voir comment... 2 gènes accolés peuvent donner naissance à une nouvelle fonction. Et c'est là le problème qui le fascine. Il devient évident, écrit-il à ce moment-là, que les mutations qui existent dans la série bithorax, série pseudo-allèle, puisqu'il y a le test qui marche, Quand on le lit dans les manuels, on prend toujours, bien sûr, parce que c'est parlant, les extrémités, les deux, hein, ou bien le phénotype est sauvage, ou bien il est mutant. Mais quand on voit travailler un généticien comme Lewis, c'est entre les deux que ça se passe. Et c'est là où il faut risquer, c'est pas si clair. Bon, alors, cela tient, plaide considérablement comme étant un groupement de gènes. Il y a de fortes raisons que, en les ayant choisis comme sujet d'étude, je suis certain que cela va nous apprendre quelque chose. Comment le doublement des gènes peut nous apprendre quelque chose sur l'évolution. Bien. Pourquoi cette première préoccupation ? Je regarde ma montre avec effroi. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il va attendre 1963 pour publier un travail consacré alors entièrement au contrôle génétique du développement. Bon. Alors, je vous disais tout à l'heure que cette idée du rôle de la duplication des gènes dans l'évolution était parfaitement répandu, soit chez Bridge en 1935, soit sous la plume, par exemple, de Müller, n'est-ce pas ? Nous avons tous pensé à un texte extraordinaire que Müller écrit encore en Russie. Nous avons tous pensé que les gènes pouvaient survenir de novo. Mais non. L'interprétation maintenant que nous pouvons faire, c'est qu'ils arrivent par duplication, parce que nous ignorions à l'époque l'effet de position. Maintenant que nous avons des pseudo-allèles, nous pouvons dire, nous pouvons ajouter à la formule qui nous est si chère, toute vie provient de la vie préexistante, chaque cellule provient du cellule. Eh bien, maintenant, je peux vous dire, un gène provient d'un autre gène préexistant. Alors, il n'est pas étonnant que, vu ces propositions, Lewis, en 1951, nous donne toute cette première partie comme étant consacrée au problème de la possibilité d'une nouvelle fonction par duplication des gènes ou duplication du génome. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que ces gens-là, donc, dans les années 30, tardives, vers les années 40, 35 pour Bridge, puis un peu plus de la même époque pour Müller, ces gens-là ont donc ouvert un champ de recherche qui a à peu près, il approche de 100 ans. Ce problème va se reposer dans des contextes différents et des techniques différentes. Pas question de développement. Deux voies distinctes. Alors, ceci va se passer, je reviens à l'évolution, cette duplication se passe en deux temps. Une duplication, d'une part, et puis un ou plusieurs gènes se manifestent, une mutation, une fonction nouvelle, et il en restera un nouveau gène, à condition que le gène préexistant, en quelque sorte, garde sa fonction. Donc vous voyez la position du problème. Il ne peut y avoir de fonction nouvelle que si la fonction ancienne est préservée. Sinon, bon, et c'est là l'ouverture de ce champ dont je vous parlais tout à l'heure. Et dans le fond, je regarde, ce qui est passionnant dans cet article de 51, c'est que sa façon de travailler parfaitement établie et que du développement, il n'en souffle aucun mot. C'est-à-dire qu'il commence à connaître les gènes qui gouvernent ce qu'il appelle des niveaux de développement, des niveaux de segmentation. Il ne parle pas du développement, il parle de l'évolution. Et ce qu'il, dans le fond, qu'est-ce qu'il applique ? Il applique la génétique du développement, mais c'est pour servir à des problèmes d'évolution. Et ça, c'est tout à fait passionnant. Non pas que ce soit un détour pour historiens des sciences seulement, c'est un détour qui ouvre une nouvelle voie. Et par conséquent, deux voies vont s'ouvrir. Alors, problème, est-ce que, et il va toujours soutenir cela, je disais son apogée, c'est 78, le grand article où il résume 30 ans de travail, extraordinaire, compression, article très difficile, où il étudie les mutations dans l'embryon précoce, c'est-à-dire le stade larvaire de la drosophile. La drosophile devient un matériel extraordinaire, on apprend tout sur elle, sauf un point, c'est qu'elle se développe de façon instantanée. Donc le temps, on ne l'a pas. Mais par contre, on a l'évolution avec la fameuse mutation à 4L, et tout ça, on l'a très bien. Bon. Alors, le problème que je pose, je regarde la pendule, c'est de savoir s'il a vraiment opéré une synthèse entre ce qui sera... Plus tard, on a dit beaucoup de mal des synthèses, enfin du mal. Une synthèse, c'est peut-être nécessaire dans la vie scientifique, et puis ensuite, elle commence à flotter. Si ce qu'on appelle l'évo-dévo, voir les rapports de l'évolution, du développement et de l'évolution, est-ce que Lewis a opéré cette synthèse ou pas ? Bon. Alors, quelles sont les conclusions que l'on peut faire. D'abord, sa manière de travailler qui, moi, a été une sorte comment dire, de lumière pour comprendre cette bizarrerie. Je fais de l'histoire des sciences, mais je suis philosophe. Bon. Cette bizarrerie que cette discipline ou ce qu'est la génétique. Pourquoi ? Parce que nous avons une science parfaitement expérimentale et qui procède par les abstractions les plus grandes. Et c'est ce côté étrange. On ne part pas d'observation pour aller à la théorie, non, pas du tout. Et la distinction que, dans sa manière de travailler, Lewis introduit en 1950, c'est la distinction entre les règles et les modèles. Les règles, c'est la répétition des phénotypes. Les modèles, c'est leur explication. On a les règles, et encore, mais on n'a pas les modèles. Alors, il va emprunter les modèles à quoi ? Ce qu'il a, c'est-à-dire la génétique biochimique, les réactions enzymatiques rétrospectives, il fait ce qu'il peut. Là encore, ça ajoute quelque chose de très énigmatique au statut de cette science. Bon. Alors, dernière question. Dernière question et je conclue. Tant pis pour les... Oui, ben j'ai fini. La question qui m'a été posée par Denis Duboul, à savoir, mais il avait lu, parce que ce n'est pas possible autrement pour nous, les méristes anglais, c'est-à-dire Bateson et Ray Lancaster. Or, Ray Lancaster publie un extraordinaire article sur la segmentation chez les arthropodes et leur classification, avec les 13 lois de la métamérie. Bon. Comment se fait-il qu'il ne l'ait pas lu ? J'ai regardé partout, interrogé les gens. Bon. Pourquoi ? Parce que il y a 36 façons, et là, sans l'histoire des sciences, j'aurais pas pu poser le problème. Il y a 36 façons, quand on pense au développement, ça recouvre beaucoup de choses. La chose dont ne s'occupent pas les méristes anglais, ce sont les questions du développement embryonnaire. Et c'est la question que les gènes vont contrôler chez Lewis. Et par conséquent, il n'en avait pas besoin. Par ailleurs, ça pose aussi la question, si j'ose dire, des cultures scientifiques. Il faut beaucoup de temps pour que les problèmes se rapprochent, d'où le rôle discret au début de Waddington aux États-Unis. Beaucoup plus tard que des synthèses se font et se défont. J'ai fini. Bon. Bien.
J'ai bien suivi très attentivement votre exposé et je trouve captivant. J'ai deux questions à vous poser, Charles. La première, comment s'est opérée la réception de ces travaux dans la communauté des généticiens ?
Lewis ?
Oui. Et d'autre part, y a-t-il eu des critiques de la part des épistémologues ou des philosophes de la biologie, sur justement ce passage, ce saut entre une observation et une abstraction, alors que les faits expérimentaux ne conduisent pas par pas à ce genre de conclusion.
Il faudra que je lise davantage de littérature sur les commentaires des épistémologues.
Il n'y a que les biographes de Lewis qui...
Je ne sais pas. Moi je dois ça parce que, m'étant mis à l'école de Denis Duboul, et Lewis, c'est la même chose, c'est le même esprit. Alors donc, et lui n'y avait pas pensé.
Est-ce que vous avez consulté le Citation Index pour savoir justement si on a pu établir des courbes de citation des articles ?
C'est dans le bouquin de Lipschitz, qui était un collaborateur de 20 ans ou 30 ans avec Lewis. Et Garcia Bellido était chez lui, tout le monde arrivait chez lui. Alors ce qui est curieux, là c'est un témoignage, quand je vais voir, après tout on ne se défait pas des préjugés de son époque. Bon, qu'est-ce que j'ai été voir au Caltech, tout jeune, puis c'est jeune par l'esprit, si vous voulez, j'ai été voir Delbrück. Max Delbrück, qui fascinait tout le monde, l'Eiffage, m'a jamais dit, il y a un gars là-bas. Alors je lui ai dit, mais il n'y a plus de Morganien. Oh, il me dit, si, c'était en 73, il y a un type là-bas qui travaille. Oh, c'était, vous comprenez, la drosophile, les histoires de Morgan. D'ailleurs, ce qui était fascinant avec Delbrück, d'abord, c'était la première fois, après tout, je suis né à Paris. Bon, je rencontrais un grand Prussien. Bon, hein, un grand Prussien dont la moitié de la famille a été exterminée par les nazis. Pas mal, c'est la rose blanche, etc. Et ce qui intéressait Max, ce qui intéressait Delbrück, quand je suis arrivé comme philosophe qui s'intéressait à l'histoire des sciences, la seule chose qui l'intéressait et qui a fait qu'on est devenu amis, grâce à Volman, qui avait été son élève, pourquoi, quand j'ai quitté l'Eiffage, où ça m'a surpris ce matériel, et je me suis intéressé aux champignons, je me suis cassé la gueule. Qu'est-ce que veut dire l'échec de la recherche? Grand esprit. 20 ans de travaux n'ont pas abouti. Voilà. Mais Lewis, ça c'est pour vous répondre sur... Alors évidemment, les élèves de Lewis, les gens qui ont travaillé... L'article qui a alors été considéré, je ne sais pas, Michel me corrige là, l'article qui a été vraiment une révélation et considéré comme un chef-d'œuvre, c'est 78. Parce que là, alors, il y a vraiment une synthèse extraordinaire de ces travaux. Là, la génétique du développement est vraiment assise. Et là, le prix Nobel en 95. Mais il publie tous les 10 ans, hein. Comme disait Duboul, c'est plus notre science. Dans des journaux obscurs, s'en foutait. Enfin, il était même très connu, mais connu comme membre de la tribu morganienne. La science a des chemins bizarres, n'est-ce pas? C'est pas moi qui vais vous l'apprendre, Christian.
Charles, j'avais deux questions. La première, cette idée de réplication au fond de la découverte du pseudoallélisme, et puis l'idée, les gènes apparaissent par duplication. Et finalement, c'est une idée extraordinaire puisqu'on a un arbre des gènes qui est d'une certaine manière équivalent à l'arbre de la vie. Enfin, c'est,
on peut faire ça a commencé en 1911 sur le maïs. D'accord. Pas étonnant.
Mais est-ce qu'on voit apparaître des arbres de l'évolution
ça sera, je ne sais pas en quelle année. Il faudra que je regarde.
Parce que ça...
Il y a un très bon papier sec dans les Annual Research de 2004 sur cette question. 100 ans de travaux sur la duplication. D'accord. Alors il y a une flopée de références. Mais c'est pour dire que nous sommes aux prises avec des problèmes qui vont durer très longtemps aussi. C'est une chose très passionnante. Ce n'est pas de l'histoire pour l'histoire. C'est absurde d'ailleurs. On n'a jamais fait de l'histoire pour de l'histoire. Nous autres.
Et la deuxième question, tu as dit, finalement, il se sert plutôt du développement embryonnaire pour l'évolution. Mais au fond, est-ce qu'il ne reprend pas de cette manière la tradition qui vient de la fin du 19e siècle, où au fond, on se sert de l'embryogenèse pour la classification. Donc il est aussi dans une certaine tradition.
L'ombre de Haeckel, oui. Jusqu'au début, qui m'a donné un peu le vertige, parce que je disais, c'est pas possible. La récapitulation qui arrive en tête de son article majeur. Autrement dit, les idées meurent jamais. Sont reprises sur d'autres terrains.
Bien, merci.
Il n'y a pas de quoi.
Je crois pas. Attends, faut que je rentre simplement. Je suis en invité, j'imagine. que normalement, j'ai rentré mon...
Ah ben, je pense peut-être plutôt en confiance.
Oui. Oui. Alors, vous m'avez retiré si jamais je parle trop fort, parce que les micros, c'est pas très bon pour moi. J'ai une voix qui porte.
Non, mais c'est bien.
Il fait attention, il règle.
D'accord. Voilà. Non, mais je vais essayer de pas. Oui, mon, oui. On avait vu tout à l'heure, c'est peut-être sur l'autre. Il faut que je revienne en arrière, là, sur l'autre, pour retrouver l'écran bleu sur lequel il y avait mon texte, peut-être sur Confluence, pareil.
Oui, là vous êtes.
Et on peut changer facilement.
On peut fermer la session.
Et on revient en arrière, d'accord.
Voilà. Hop là.
Voilà.
C'est que vous avez pré-invité ?
Oui, parce que je ne savais pas ce qu'il fallait. Donc. Bon. Alors. Oui, moi non, j'ai pas besoin. Non, non.
Françoise, elle est modèle.
Mais voilà. Oui, c'est là. Voilà, c'est ça. Exact. Merci. C'est bon. Merci. Alors, je vais peut-être. Enfin, c'est bien parce que Charles a amené au XXe siècle. Je vais peut-être. Ça va être un petit peu déroutant, peut-être, pour certains d'entre vous, parce que là, on est vraiment dans des débats très contemporain, je ne suis pas historienne, donc je n'ai peut-être pas un esprit tellement historique. Et alors, diaporama, voilà. Affichage, c'est ça comment je lance le diaporama, ça doit être ça, voilà. Ouais. Bon, oui. Donc, en fait, je me suis intéressée à un débat qui est un débat très récent et qui concerne les causes de l'évolution. La raison pour laquelle je me suis intéressée à ce débat est qu'on y discute du lien entre cause et probabilité. Et ce lien m'intéressait parce que je m'intéresse à une question où j'ai rencontré aussi un thème du même type et les arguments que les gens amenaient étaient un peu de même nature. Et ça m'a amené à me plonger dans ce débat, il y a de ça en gros 7-8 mois, 10 mois. Et j'ai le sentiment d'avoir un petit peu mieux compris certaines choses. Donc c'est ce débat que je vais vous présenter. Et vous allez voir, c'est vraiment très récent, puisque en gros, les articles que je vous présente, ils remontent en 2000. Je crois que ça va être les plus anciens. Bon, alors le plan rapidement, encore, vous voyez, je parle de Sauber, et là on remonte un tout petit peu plus haut, mais c'est le contexte. Donc je vais vous présenter la question et les protagonistes, et puis l'analogie des forces de Sauber, et puis des arguments qui vont nous amener à dire qu'il faut faire prudence avec des causes probabilistes, et puis donc deux questions. Et j'ai mis une dernière question en gris, parce que je ne pense pas que j'aurai le temps de l'aborder. Voilà. Alors, quelle est la question ? On se demande ce que nomment les expressions sélection naturelle et dérive génétique. Et on se pose la question parce que, justement, la théorie moderne de l'évolution, la théorie synthétique dont on a parlé, fait intervenir très, très largement les probabilités, en particulier dans la génétique des populations. Et c'est à partir de ce contexte et de cette forme moderne de la théorie de l'évolution que cette réflexion s'est menée. Alors, la question, c'est est-ce que ça nomme vraiment des causes ou est-ce que ça nomme des effets statistiques ? C'est ça, en gros, l'opposition. Et vous allez avoir deux camps que j'ai appelés. Le premier, les causalistes, qui défendent que sélection naturelle et dérive génétique nomment bien des causes. Et puis ceux qui remettent en question cette position, qui est même la position classique, traditionnelle, la façon naturelle d'expliquer l'évolution biologique et de la comprendre. Alors, je vous donne rapidement les protagonistes. Donc, vous voyez que ceux qui ont commencé à défendre la position anticausaliste, c'est des articles qui remontent à 2000. Donc, en gros, vous avez trois auteurs principaux, Dennis Walsh, André Ariou et Mohan Matten, et puis, ponctuellement, vous avez eu aussi Tim Levens. Vous avez des gens qui récemment défendent le causalisme. Pour moi, la plus significative, c'est une femme qui s'appelle Roberta Milstein, donc un article de 2002, mais vous avez différentes différents articles. Vous avez des articles encore plus récents de gens, disons, un petit peu, qui commencent à s'engager sur ce terrain. Voilà. Et le background, eh bien, on peut partir de l'ouvrage de Sauber, La nature de la sélection, et puis d'un article de Betty, mais je ne sais pas si j'aurai l'occasion d'évoquer l'article de Betty. Alors, on va voir l'argument anticausaliste. Alors, je vais surtout m'appuyer, enfin, moi, ce qui m'a intéressé, je vous avoue, ce qui m'a lancé dans cette histoire, c'est cet article-là de 2002 où il y a l'argument qui m'intéressait. Voilà. Alors, partons donc de l'analogie que Sauber proposait entre la sélection naturelle et la dérive et des forces. C'est pour dire qu'effectivement, on peut essayer d'analyser l'évolution comme le résultat de forces qui agissent, ou le résultat de la sélection naturelle ou de la dérive, comme des causes. Et ces causes, elles peuvent être analysées sur le mode des forces. Et on peut faire une analogie avec la mécanique newtonienne. Hein, c'est ce que dit cette citation. Et plus précisément, il en arrive à l'affirmation suivante. On peut en particulier essayer de découvrir si des forces ont joué un rôle en appliquant le principe en fait de la loi des quand il y a zéro force, c'est-à-dire quand il y a zéro force, il ne se passe rien. Et on peut par exemple supposer que si les fréquences s'éloignent de l'équilibre de Hardy-Weinberg, eh bien des forces peuvent avoir joué. Donc, quand il y aura un changement, il faut qu'il y ait une force. Et l'absence de changement n'implique pas l'absence de force, ça peut être le cas, mais ça peut impliquer aussi simplement des forces qui se contrecarrent. Bon, là, on a un modèle typique de mécanique newtonienne, on a la façon de développer cette analogie. Et c'est à, disons, alors, Sauber développe cette analogie, essaye de montrer comment ça marche. Et c'est là-dessus que va porter la critique donc, de Matten et Arriou, 2002. Et je vous donne la citation que je vous lis. Y a-t-il réellement un sens à dire que la dérive est une force, ou de façon encore plus générale, une force qui agit indépendamment de la sélection ? Employons une analogie. Imaginez que vous lancez une pièce à pile ou face 4 fois. Qu'est-ce qui expliquerait le résultat de face ? Réponse. Le dispositif physique des lancers à pile ou face. Qu'est-ce qui expliquerait le résultat 4 faces ? La même chose, c'est-à-dire le même dispositif physique. Bien sûr, bien que le dernier résultat soit le moins probable, le même dispositif explique les deux pareillement. Donc là, ce que reproche, on va le voir un peu plus en détail, mais on comprend l'idée, ce que reproche Matten et Arriou à Sauber, c'est de vouloir raisonner effectivement avec une analogie avec la mécanique newtonienne, mais en ne faisant pas attention qu'on n'est pas en train de supposer des causes classiques, déterministes, mais qu'on est en train de supposer des causes qui sont des causes probabilistes, des causes qui ne peuvent pas avoir les mêmes propriétés que, disons, les causes dans une mécanique newtonienne classique. Alors, je vais essayer de préciser ce que veut dire ici cause déterministe et cause probabiliste, hein, puisque à chaque fois que les gens, disons, adoptent cette façon de parler, ils supposent que la sélection et la dérive ont des effets probabilistes, pas des effets déterminés. Hein. Et donc, une cause déterministe, c'est une cause telle que C cause E, s'il y a C, alors il y a E. On est dans la détermination. Quand on a la cause C, on a l'effet E. Une cause probabiliste vous dit que si on a la cause C, alors on a des effets avec une certaine probabilité. Si on reprend l'exemple, pour voir clairement ce que ça veut dire, si on reprend l'exemple du lancer à pile ou face, l'idée c'est que vous avez donc un certain dispositif physique, c'est le terme habituel pour décrire ça, et ce dispositif physique est la cause d'un certain résultat qui sera pile ou face, mais évidemment, en fait, ça ne détermine que la probabilité de ce résultat. Probabilité que la pièce tombe sur pile, tombe sur face. Hein, si on s'y met dans l'idée que la pièce est non biaisée, eh bien, cette probabilité est 1,5 dans chaque cas. Et ce que font remarquer donc Matten et Ariou, c'est que quand on fait des inférences avec des causes probabilistes, c'est différent que quand on fait des inférences avec des causes déterministes. Effectivement, Sauber, quand il dit s'il y a un changement dans les faits, c'est qu'il va y avoir un changement dans les causes, c'est ce qu'il implique en utilisant le principe de s'il n'y a pas de force, alors il n'y a pas d'effet. Et si jamais il y a un effet, eh bien on va retrouver la force qui la cause. En fait, ce principe-là marche avec des causes déterministes, ne marche pas si on se donne des causes probabilistes. En fait, Sauber suppose que si jamais il n'y a pas le même effet, il faut qu'on n'ait pas les mêmes forces avec les mêmes intensités. On n'en pourra pas avoir exactement la même cause. Or, Matten et Ariou, c'est ce que montre leur analogie, disent, mais en réalité, dès qu'on se met à supposer quelque chose de probabiliste, des effets différents vont être expliqués par la même cause probabiliste. Par exemple, je suppose le même dispositif physique, eh bien, ce dispositif physique m'expliquera que j'ai deux piles de face, mais si j'avais eu quatre piles, c'est ça l'idée même que ce soit une cause probabiliste, ça me l'aurait expliqué exactement de la même façon. J'aurais fait référence exactement au même dispositif physique. Donc en réalité, ce n'est pas parce que j'obtiens deux piles de face que je vais pouvoir distinguer et dire c'est pas, il y aurait eu d'autres causes si j'avais obtenu quatre piles. Ce n'est pas vrai. Bon. Et c'est à partir de ça qu'il se lance dans cette critique. Alors, effectivement, l'utilisation des causes probabilistes vont avoir deux conséquences principales. Donc la première, on vient de la voir. C'est que deux effets différents peuvent avoir la même cause. Donc en particulier, le changement, donc imaginons la proportion d'individus qui ont un certain trait dans la population change, peut avoir la même cause que, en fait, le fait que cette population conserve toujours la même proportion d'individus ayant ce trait. Et ça amène au fait qu'en fait, quand on a l'effet et qu'il y a plusieurs causes probabilistes qui ont pu le produire, et là, dans l'idée, c'est la sélection ou la dérive comme cause probabiliste possible, eh bien, en réalité, on ne peut pas savoir qui l'a produite, quelle est la cause qui a son origine. Bien sûr, je peux dire, si je suis dans une situation où la sélection est la chose la plus probable, que si j'ai un résultat qui correspond à ce que mon analyse de la situation m'amenait à faire, que très probablement il y a eu sélection, mais en réalité ce résultat est supposé aussi possible si jamais j'avais été dans une situation de dérive. Donc en fait, alors peut-être le cas est justement plus clair si on repense à une pièce. Imaginez deux situations dans lesquelles, dans un cas, vous avez une pièce qui n'est pas biaisée, dans l'autre vous avez une pièce biaisée. Bien entendu, si vous avez une pièce pas biaisée, il est moins probable que vous obteniez, disons, 70 piles et 30 faces que si jamais vous avez une pièce biaisée dans laquelle les piles sont avantagées. Mais après tout, si vous avez que le résultat, 70 piles, 30 faces, il peut venir d'une situation où un dispositif physique où la pièce n'est pas biaisée, même s'il est plus probable dans le cas où la situation est celle d'un dispositif d'une pièce biaisée. Voilà. Donc, j'ai mis débiaisé, c'est une pièce en l'occurrence. Donc la conséquence pratique, c'est que si vous avez par exemple une augmentation d'un allèle, disons l'allèle A, de 10% en trois générations, vous n'allez pas plus pouvoir l'imputer à la sélection qu'à la dérive, même si effectivement c'est plus probable dans le premier cas que dans le deuxième. Alors ça va, cet argument est au départ dirigé contre, la théorie sauberienne, mais en fait, elle va s'étendre à tous les gens qui vont défendre ce que j'appelle ici un causalisme pop pour dire, en fait, pop, ah oui, alors je ne vais pas dans le sens que je veux, voilà, un causalisme pop pour dire un causalisme populationnel. Alors, pourquoi ? Donc, l'idée, le causalisme, je rappelle, j'ai appelé ça comme ça, c'est l'idée que la sélection et la dérive nomment des causes de l'évolution. Et le causalisme populationnel, ça ajoute la thèse suivante, c'est que la sélection et la dérive, ça s'identifie au niveau populationnel. Et on va étayer cet argument. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que identifier au niveau populationnel ? Et on va voir que c'est souvent ce qui se passe. Alors, je propose sur un exemple. Donc on imagine un trait qui est avoir bonne vue et un trait et le trait correspondant qui est avoir mauvaise vue. On peut supposer que ça dépend que d'un seul gène, qu'il n'y a que deux allèles, que tout ça marche de façon la plus simple possible. Alors, qu'est-ce que c'est quand on va identifier ou décrire une situation à un niveau populationnel? On se donne une situation de départ au temps S, on se donne un résultat au temps T1, oui, donc résultat R. Alors qu'est-ce que ça va être que la situation de départ? C'est la proportion des individus qui ont le trait A, grand A, et les individus qui ont le trait petit a, un certain nombre de caractéristiques de la population, on peut l'appeler ça globalement CR, puis des conditions de l'environnement, la niche, ce qui se passe. Bon. Alors souvent, on peut synthétiser ça en disant que ça fait qu'un certain ensemble d'individus ont chacun une certaine propension déterminée à se reproduire, si on parle en termes propensionnels, ils ont une certaine fitness. Et puis, le résultat, c'est quoi? Eh bien, c'est justement au temps T1. Alors, dans mon exemple, j'ai imaginé il y a trois générations, c'est la proportion qu'on trouve des individus avec le trait A, et, grand A, et le trait petit a. Oui, ce qui se passe, c'est qu'évidemment, on est dans le cas problématique, c'est-à-dire le cas de cause probabiliste, puisque justement la situation de départ est supposée être une cause probabiliste. Ce qui se reflète dans le fait que, par exemple, l'attribution de la propriété de fitness est une propriété qui implique des probabilités. Donc, qu'est-ce qui se passe? Regardons sur un exemple. Imaginons qu'on est dans une situation qu'on va dire sélective. Une situation où, je ne sais pas, le terrain est très accidenté, il y a de bonnes probabilités, si on n'a pas une bonne vue, de tomber dans des ravins, d'en mourir, etc. Et puis, une situation où, au contraire, la différence entre la bonne vue et la pas bonne vue n'est pas intéressante. Alors, on peut imaginer deux types de résultats. Donc, on suppose que la situation rend probable que la proportion c'est ce que j'ai décrit dans le premier grand tableau, égale S1, c'est-à-dire on a une situation sélective, et la probabilité augmente de 10%, j'ai mal expliqué, il est probable que la proportion des grands A augmente par rapport à la proportion des petits A de 10%, disons en trois générations, c'était mon exemple. Alors, soit on peut obtenir un résultat qui correspond à cette situation, c'est le résultat R1, il y a bien l'augmentation en question, soit on obtient un résultat où, en fait, la proportion des individus avec bonne vue par rapport aux individus avec mauvaise vue est restée la même, c'est la situation R2. Et puis, on peut, maintenant, on se met dans la situation où c'est une situation non sélective, la vue ne joue pas, imaginons que c'est des individus qui sont dans une situation où la vue n'a... Par exemple, vivent dans la nuit ou des choses de ce genre. C'est des exemples théoriques, je reconnais. Les discussions là, de philosophie des sciences sont avec des exemples assez inventés. Mais c'est le même exemple qu'utilisent Matten et Arius, c'est pour ça que j'ai pris celui-là. Et là, pareil, on peut imaginer qu'on a une augmentation des individus à bonne vue par rapport aux individus à mauvaise vue, ou qu'on a une situation où la proportion reste la même. Alors, en fait, évidemment, ce qu'on attend, dans la première situation, on attend qu'on soit dans le cas R1, dans la deuxième situation, on attend qu'on soit dans le cas R2. Cependant, on sait que, justement, parce que c'est une cause probabiliste, on peut très bien, dans la situation 1, être dans le cas R2. Alors, je vais analyser ce cas, donc je le rappelle simplement là. Donc, c'est le cas où, alors que la situation est sélective, en fait, on reste dans une situation où il n'y a apparemment pas eu de sélection, en tout cas il n'y a pas eu de changement de proportion entre les individus à bonne vue et les individus à mauvaise vue. Alors il y a deux cas possibles, là, il y a des scénarios en fait, on se rend compte, si on essaye de se raconter les choses, on peut se dire que, eh bien en fait, tous les individus, il n'y a pas eu de différence entre les individus à bonne vue et à mauvaise vue, parce qu'il se trouve que, en fait, avant la reproduction, ou avant je ne sais pas quoi, il y a eu des morts, mais tous ces morts ont été dus à des événements qui n'ont absolument rien à voir avec le trait bonne vue ou mauvaise vue, pour lequel le trait bonne vue ou mauvaise vue n'a aucune conséquence. Alors, l'exemple classique qui remonte à Bétis, c'est pour ça que je vais noter, c'est l'idée d'avoir été tué par la foudre. Bon, enfin, on peut imaginer n'importe quoi, par des maladies, etc. Peu importe, Simplement, les facteurs ici qui ont été déterminants n'ont rien à voir avec le fait qu'un individu ait ou non mauvaise vue. Ça n'a pas joué sur, par exemple, alors souvent l'exemple aussi, au lieu de parler de la reproduction, on parle plutôt de la mortalité, qui est un cas particulier un peu plus simple que la reproduction. Donc on suppose que la mortalité n'a pas été due à des facteurs qui ont à voir avec la bonne ou mauvaise vue. Hein, c'est une simplification. En fait, mais on peut aussi supposer le cas 2, bien sûr. On peut supposer qu'en réalité, il s'est passé, en bonne partie, ce qu'il était probable qu'il se passe, c'est-à-dire que la différence entre la bonne vue et la mauvaise vue joue. Et effectivement, il y a bien eu N% d'individus à mauvaise vue qui sont morts parce qu'ils sont tombés dans des ravins et ils ne seraient pas tombés dans ces ravins s'ils n'avaient pas eu leur mauvaise vue parce qu'ils l'auraient vue à temps. Mais il se passe que, étrangement, il y a des individus à bonne vue qui ont été tués par un facteur qui n'a rien à voir en beaucoup plus grande quantité, par exemple la foudre une autre fois ou une maladie ou quelque chose. Donc en fait, on se retrouve dans le fait qu'on peut avoir le même résultat, mais il y a deux scénarios complètement différents qui aboutissent à ce résultat. Face à cette situation, il y a trois diagnostics possibles, évidemment. Le premier, c'est de dire que de toute façon, peu importe, dans la mesure où la situation est sélective, on va dire que ces deux histoires sont sélectives. Le diagnostic 2, c'est de dire que, en fait, les cas 1 et 2 sont dus à de la dérive parce que, en fait, le résultat n'est pas celui qu'on attendait. On attendait un résultat de sélection et on n'a pas eu ce qui était attendu, ce qui était le plus normal. Donc, c'est un résultat de dérive. Et puis, il y a un troisième type de diagnostic, c'est de dire que le cas 1 est un cas de dérive. Pourquoi ? Parce que, en fait, le facteur bonne vue ou mauvaise vue n'a eu aucun rôle dans ce qui s'est passé. Mais le cas 2 est un cas de sélection, où il y a contrecarré par la dérive. C'est-à-dire qu'il y a eu à la fois action de sélection, à la fois action de la dérive. Pourquoi ? Parce que ce qui s'est passé a fait jouer la différence bonne vue, mauvaise vue. Mais étrangement, il y a eu, au lieu que, disons, ce qui est indépendant de la différence bonne vue, mauvaise vue, aboutisse à un même nombre de morts des deux côtés, ceux qui avaient une bonne vue, ceux qui n'avaient pas une mauvaise vue, il s'est passé que la foudre ou d'autres facteurs indépendants de ça a tué beaucoup plus de possesseurs de la bonne vue que de mauvaise vue. Donc, on est revenu à un cas, en fait, de non-évolution. Alors, en fait, si on est effectivement ce que j'appelais un causaliste populationnel ou POP, on peut faire que les diagnostics des 1 et des 2. Pourquoi ? Parce qu'on ne distingue pas en réalité ce qui se passe au niveau des scénarios, les cas 1 et cas 2. Ce qu'on s'est donné au départ, c'est simplement une situation qu'on décrit aussi finement qu'on veut, mais une situation qui donne lieu à de la vitesse, et puis un résultat. Et c'est vrai que si on en est là, eh bien, en réalité, on ne peut pas... le diagnostic D3 est de toute façon exclu. Classiquement, ce que les gens proposent, mais alors je vois qu'il y a un changement de mise en forme qui est intervenu, c'est le diagnostic D2, en réalité. Les causalistes type Brandon diront que si on est dans le cas où la situation est sélective, mais qu'on obtient un résultat, par exemple, où la sélection n'a pas joué le rôle voulu, eh bien, ça s'explique par le fait que la dérive a joué. Bon, donc ils choisiront en général le cas des deux. Alors, ce que donc Matten et Ariou font remarquer, c'est la chose suivante, et qui se voit bien là si on analyse cet exemple, c'est que en réalité, donc si on est dans le cas des deux, qui est le cas où se mettent les causalistes populationnels, eh bien, qu'est-ce que ça nomme la sélection et la dérive dans ce cas-là ? Qu'est-ce qu'ils disent quand ils disent qu'on obtient une dérive parce qu'on n'obtient pas ce qui était attendu? Ils nomment non pas justement ce qui s'est passé, je dirais, pour eux, au véritable niveau causal d'explication, mais simplement en mettant en relation des effets à niveau statistique relativement à une situation de départ. Et bon, alors on peut discuter de ça, mais effectivement... je voulais revenir en arrière. Voilà. Ah zut, non, c'est dans l'autre sens. Voilà. Pour Matten, Ariou et Walsh, le niveau des interactions causales se situe au niveau des individus. C'est là qu'ont lieu les morts, les reproductions, etc. Et c'est quand on dit que la sélection et la dérive nomment des causes, ce qu'on voudrait, c'est qu'il distingue justement des choses qui renvoient au mécanisme et au processus qui produisent le résultat, qu'il soit capable de faire cette distinction entre le cas 1 et le cas 2. Et je crois que c'est assez intuitif, là. Effectivement, on a envie... c'est pour ça que je voulais présenter de façon, disons, explicitée, le cas 1 et le cas 2. On a envie de ne pas analyser de la même façon le cas 1 et le cas 2. Et pourquoi ? Eh bien, parce que les processus producteurs n'ont pas été les mêmes. Et ces processus, ils agissent effectivement au niveau des individus, mais on ne les voit pas si on regarde simplement ce qui se passe au niveau des populations. Bon, alors... Donc, je suis partie de la critique à Sauber, qui s'est tendue à la critique au causalisme populationnel. En fait, Matten et Ariou sont encore plus radicaux, puisqu'en fait, ils veulent remettre en cause toute forme de causalisme. Et donc, ils abordent la troisième forme possible, si on veut, enfin, ou la deuxième forme, puisque la forme de Sauber est une forme de causalisme populationnel. C'est l'idée que, justement, on pourrait distinguer la sélection et la dérive en regardant ce qui s'est passé au niveau individuel. Alors là, je vais être un peu plus rapide, parce que je ne pense pas que j'ai le temps, en fait, c'est là-dessus que je... Bon, c'est intéressant. Ils le reconstruisent, ils le décrivent comme ça, ce causalisme naïf, et je crois qu'on on comprend bien. Les histoires de sélection naturelle consistent, après tout, dans des collections d'événements individuels concrets. Naissance, mort, copulation, mutation, etc. Certains de ces événements sont prévisibles à cause de traits avantageux, la fitness ordinaire, d'autres ne le sont pas. Dans le premier cas, comme le disent certains, il s'agit d'un échantillonnage discriminant. Dans le second, d'un échantillonnage non discriminant. Et donc, on pourrait penser qu'il est possible d'établir le rôle exact de la fitness ordinaire et de la dérive en se penchant sur les événements individuels afin de déterminer si c'est un échantillonnage discriminant ou non discriminant qui a agi. De cette façon, la sélection et la dérive seront créditées de la part qui leur revient dans le résultat. Hein? Bon, donc là, ils exposent de façon un peu générale et abstraite ce qui serait la position d'un causaliste plus naïf qui dirait « mais on n'a qu'à regarder qu'est-ce qui se passe au niveau effectivement des événements qui touchent les individus de la population, il me reste 5 minutes, d'accord, qui touchent les événements de la population pour voir si oui ou non c'est la sélection ou la dérive qui ont agi. Et qu'est-ce que ça sera qu'un échantillonnage discriminant ? Mais ça sera un échantillonnage dans lequel, effectivement, un certain facteur va avoir joué et favorisé, et non discriminant, c'est lequel il ne va pas avoir joué. Alors, bon, assez rapidement. Donc, ils reprennent l'exemple que j'ai pris moi-même, mais en le regardant sur deux cas individuels, donc deux individus, O1 et O2. Et donc, il y en a un qui a une mauvaise vue et l'autre a une bonne vue, et celui qui a une mauvaise vue est tombé du haut d'une falaise, alors que, par contre, on imagine donc un premier événement de ce type. Par contre, on imagine aussi un deuxième événement, qui est que celui qui a une bonne vue a été tué par la foudre. Alors, ils disent, si on se met dans la position du causaliste naïf, on dira que quand celui qui a la mauvaise vue est tombé du haut d'une falaise, ce qui a joué ici, c'est la sélection naturelle. Et si, par contre, quelqu'un a été tué par la foudre, et là, en particulier, celui qui avait une bonne vue, mais qu'importe, à ce moment-là, ce qui se passe, ça sera dû à la dérive. C'est ça l'idée générale. Et ils disent, non, ça non plus, on ne peut pas le faire. Parce que, pareillement, on est supposé avoir des causes probabilistes, en fait, là, d'avoir la propension, c'est-à-dire la fitness, que c'est supposé expliquer. Et disent-ils, on se retrouve toujours dans le même cas de figure. Alors, je vous donne une citation. « Dans la mesure où nous nous intéressons à des facteurs qui ont un retentissement probabiliste sur les produits de l'évolution, il nous faut résister à la tentation de dire que les deux cas ci-dessus, C1 et C2, peuvent être distingués en termes de facteurs significatifs. » Et donc, on retrouve, comme je viens de le dire, les limitations qui sont propres aux causes probabilistes. Alors, mais ce n'est peut-être pas essentiel. Moi, c'était sur ce point-là qu'après je me suis, qui m'a beaucoup mobilisée, puisque j'essayais de comprendre pourquoi, selon moi, leur argument ne tient pas. Et c'est ce qui m'a, m'amène à voir qu'il y a un cas un petit peu particulier, parce que les facteurs sélectifs sont des biais, et on est dans une situation où Matten et Ariou font jouer une symétrie quand on a des causes probabilistes. qui marche bien quand on prend le cas du lancer de pièces, voilà, mais qui, dans le cas de la sélection naturelle, ne s'applique pas de la même façon, parce que, mais ça nous envoie, donc, ça nous amène à donc réfléchir sur le rôle du hasard, ne marche pas parce que je ne vais pas dans le sens que je veux, donc il faut que j'appuie là-dessus, non. Pourquoi je n'appuie dans le sens que je veux si, voilà, je vais dans le sens que je veux, pardon. Parce qu'en fait, le hasard, et je vais arrêter là, parce que le hasard porte sur l'application, sur l'apparition des circonstances et non sur l'effet du trait. Pour le dire rapidement, on ne peut pas prévoir, évidemment, si oui ou non, il va y avoir sélection ou dérive. Parce qu'on ne peut pas, avant que l'événement ait eu lieu, savoir dans quelles circonstances les individus vont se trouver. Par contre, si on se place à la fin du processus, théoriquement, il n'y a pas d'indétermination substantielle sur quelles ont été les circonstances dans lesquelles les individus se sont retrouvés. Et à partir de ça, il est tout à fait pensable que dans ces circonstances, le fait d'avoir ou non le trait peut de façon déterministe impliquer ou non un événement tel que la mort, tel que, je ne sais pas, mieux séduire une partenaire sexuelle potentielle ou quelque chose qui joue sur l'évolution. Bon, alors là, je ne rentre pas dans le détail, mais l'idée, c'est que la symétrie qu'on faisait jouer dans, voilà, dans le cas des pièces ne marche pas ici pour cette raison très particulière de l'endroit où joue systématiquement le hasard quand on parle de la théorie de l'évolution. Voilà. Et je montrais que les gens qui utilisent d'autres analogies qui sont aussi trompeuses que celles des pièces, mais voilà, j'arrête ici. C'est ça le point donc de cet exposé. Voilà. Je suis sûre que c'est un peu troublant, mais...
J'avais deux questions, mais qui sont plus des interrogations. Je n'ai pas de réponse, mais quand tu dis qu'il y a deux moments où le hasard intervient, c'est deux moments où le hasard intervient ou deux formes de hasard légèrement différentes? C'est plutôt deux moments où le hasard intervient.
Alors, est-ce que j'ai dit deux moments? Si j'ai dit deux moments...
Il me semble, mais...
Oui, c'est possible. C'est possible que j'ai employé ce mot. Disons, ce que j'ai dit, c'est que... Voilà, où j'essaie, disons, de redire le sens de ce que j'ai dit, peut-être pas exactement les mots. C'est que donc, il y a bien une... l'analyse du cas des pièces est une bonne analyse que font Matten et Ariou, parce qu'il y a bien une symétrie, parce qu'à chaque fois, on est ramené au dispositif physique. Par contre, dans le cas de la sélection, enfin de l'évolution biologique, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas cette même symétrie, c'est-à-dire qu'avant, on ne peut pas savoir... Mais après, on peut savoir parce que le hasard intervient sur les circonstances. En fait, de façon systématique. Alors, peut-être dans certains cas, le hasard peut jouer aussi sur l'effet qu'aura, je sais pas, le fait d'attraper une maladie, imaginons. Mais dans beaucoup de cas, et dans les cas qu'ils analysent, par exemple le cas de la bonne vue, pas de la bonne vue, on peut tout à fait défendre l'idée que le hasard n'intervient que sur le fait de rencontrer des circonstances qui vont faire jouer le biais ou pas. Et donc, dans la mesure où on ne peut pas savoir si le biais va être amené à jouer ou pas, on ne peut pas prédire avant si ce sera sélection naturelle ou dérive. Mais on peut, après coup, savoir, en sachant quelles circonstances les individus ont rencontrées, on peut déterminer si, oui ou non, dans ce cas-là, le biais a joué ou pas pour que ces circonstances provoquent ce qu'elles ont provoqué. Donc, on a une analyse causale possible après coup qui permet de redonner un sens causal effectivement à la sélection naturelle, c'est-à-dire d'identifier la sélection et la dérive au niveau des processus. Donc c'est ça le... Oui.
Et l'autre aspect, c'était ce que tu vois en termes d'explication causale et nature de la causalité, est-ce qu'on ne pourrait pas le voir en termes de qu'est-ce qu'une explication et est-ce qu'on a exactement les mêmes types d'explications dans, par exemple, qui sont recherchées par, dans les différents cas? Je pensais que j'ai l'impression que dans certains cas, on recherche une explication en termes de mécanisme. C'est-à-dire, on veut que l'explication, ça sera un mécanisme qui expliquera comment les événements se sont succédés et en boutique résultat. Et que dans l'autre cas, on considère qu'une explication peut être simplement la mise en évidence d'une sorte de loi. Mais qu'on peut se passer, d'une certaine manière, d'une chaîne de causalité ou, disons, d'un ensemble de mécanismes pour considérer qu'on a expliqué. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de... y aurait une sorte de symétrie entre ce que tu as dit et peut-être une analyse qu'on pourrait faire en termes de, d'explication, un peu de manière symétrique. Alors, ou parallèle.
Oui. Peut-être, disons, bon, je pense qu'en particulier, ça, ce que ça clarifie, ce débat, ou ce que ça cherche aussi à clarifier, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre derrière le terme de cause dans un certain nombre de cas. Et je pense que ce que ça éclaire, c'est que quand on parle de la sélection et de la dérive comme cause, si on pense à nos intuitions, tout de même classiquement, je pense qu'on aurait envie de pouvoir distinguer entre le cas 1 et le cas 2. Et c'est en ce sens qu'on a parlé de la sélection comme cause de l'évolution, par exemple. Et donc, évidemment, il y a d'autres sens d'explication causale que quelque chose qui est peut-être aussi exigeant que ça et qui nous demande, parce qu'on pourrait dire on donne tout de même le mécanisme, ou on donne une partie du mécanisme quand on donne la situation générale au départ. Mais je pense que dans ce cas-là, il y a un grain de distinction causale qu'on vise. Et quand on n'atteint pas ce grain-là de distinction causale, d'une certaine façon, on n'a pas le moyen de distinguer entre la dérive et la sélection naturelle. En tout cas...
Est-ce que ce n'est pas deux niveaux d'exigence aussi dans ce qu'on appelle une explication? C'est-à-dire que là encore, on va trouver au fond qu'on peut, dans un cas, considérer qu'on a expliqué ça, et que d'autres vont dire qu'on n'a pas expliqué parce qu'on n'a pas mis en évidence justement ce chemin de causalité. C'est donc aussi deux manières de fixer des niveaux de ce qu'est une explication. C'était...
Oui, je... disons, je résiste à cette idée que, que ce soit deux exigences différentes relativement à l'explication, parce que, disons, dans les arguments que les gens amènent pour dire qu'ils sont causalistes ou pas causalistes, on voit bien que ce mélange, souvent, justement, le fait de pouvoir faire droit à la possibilité de distinguer entre les cas 1 et les cas 2. Et c'est que c'est ça qui est intuitif. Et donc, je n'ai pas l'impression, le débat ne prend pas la forme de dire, mais moi, j'appelle sélection autre chose que ce que vous appelez sélection. Pour moi, l'exigence d'explication, c'est autre chose que vous. Mais le débat se formule bien plutôt en disant, mais est-ce qu'on arrive ou pas à cerner... disons, à cerner des causes de l'évolution en appelant sélection et dérive ces choses-là. Donc, oui, ça ne se pose pas comme comme un débat épistémologique sur l'idée d'explication, mais ça se pose bien comme un débat sur la distinction de la sélection et de la dérive.
Alors, moi, j'ai plein de remarques et plein de questions, mais je ne les poserai pas toutes. Simplement, d'abord pour les remarques, tous les cas de foudre qui ont été présentés dans l'exposé ne correspondent absolument pas à ce qu'on appelle la dérive en biologie de l'évolution. La dérive, c'est quoi? C'est un tri, mais c'est un tri, juste, comme ça a été dit après, qui ne met pas en valeur des caractères discriminants. Donc c'est un tri sans sélection. Mais ça nécessite l'établissement de protocoles sur plusieurs générations et en fait, le cas de la foudre qui frappe de manière complètement aléatoire un individu, c'est absolument pas ce qu'en théorie de l'évolution, les gens appellent de la dérive. Donc ça pose déjà un problème de savoir est-ce que les philosophes qui travaillent sur ces questions-là partent de conceptions qui, biologiquement et scientifiquement, sont fondées. Donc ça c'est, et de manière plus générale, est-ce que à toujours vouloir recentrer l'explication sur l'individu en tant qu'organisme individuel, en fait ils ne perdent pas finalement ce qui fait la force de la génétique des populations, à savoir être une science statistique où la fitness se définit de manière statistique, et est-ce que c'est légitime de vouloir ramener cette définition de la fitness à quelque chose qui justement ne serait plus du domaine de la statistique et de la population, mais du domaine de l'individu particulier? Et bon, dernière remarque et dernière question. L'équilibre Hardy-Weinberg nécessite que tout un tas de précautions et de tout un tas de d'événements soient remplis avant. Et en fait, il y a évolution en génétique des populations si cet équilibre justement n'est pas respecté. Et la dérive et la sélection naturelle ne sont que deux possibilités de non-respect de l'équilibre de Hardy-Weinberg. À côté de ça, il y en a d'autres, comme les migrations, comme les mutations. Et du coup, à ce moment-là, pourquoi est-ce que les gens qui réfléchissent à ces questions-là éludent complètement ces autres possibilités qui, d'une certaine façon, pourraient rentrer dans une discussion sur les causes de l'évolution? Pourquoi est-ce qu'on se concentre exclusivement sur la sélection naturelle et sur la dérive, alors que d'autres phénomènes sont capables de jouer sur les équilibres alléliques au cours des générations, et donc, si on se place dans le cadre de la génétique des populations, sont capables d'avoir une incidence micro-évolutive?
Non. Alors, la première remarque. C'est peut-être pas spécialement bien choisi que la foudre, mais c'est parce qu'un article de Betty a utilisé ça comme exemple. Et lui-même dit, il y a des différents types de dérives, on va appeler dérives systématiquement, n'importe quel mécanisme amène à ce que, comment il le dit, moi, je ne sais plus si je l'ai gardé là, bon, il parle de la... c'est l'échantillonnage. Bon, et c'est le mécanisme qui va faire que vous n'allez pas avoir la reproduction attendue, mais ça va être indépendant du caractère sélectif. Ça peut être on pourrait rentrer dans le détail là. Vous avez plusieurs types de dérives. Il prend cet exemple-là, qui évidemment, d'un point de vue biologique, est un exemple absurde, mais d'un point de vue abstrait, ça marche très bien. L'idée, c'est que la foudre est supposée, a priori, tuer de façon indiscriminer les gens indépendamment de leur caractère.
Oui, non, c'est ça l'idée. Bon, après, mais on sort de la génétique des populations, donc du coup, on ne réfléchit plus du tout sur les problèmes que se posent les biologistes.
Mais justement, le point. Alors, bon, moi, c'est pas complètement clair. Les gens qui sont des anticausalistes, donc vous seriez du camp des anticausalistes. Hein, les anticausalistes, oui, vous le savez pas, mais de fait, vous trouvez de ce côté-là. Non, je viens par là, puisque justement, c'est en gros ce que disent les anticausalistes disent, vu que notre théorie actuelle c'est la génétique des populations, qu'en fait ça ne nous intéresse pas du tout ce qui se passe relativement aux individus, en fait on n'a même pas à le prendre en compte, d'accord, en tout cas les critiques, hein, Matten, Ariou et Walsh diraient, si la théorie de l'évolution c'est ça, eh bien vous perdez un sens intuitif ou le sens donné habituellement à sélection et dérive comme des causes de l'évolution. Parce que vous n'êtes pas en train de nommer des causes, vous êtes en train de nommer un certain type d'effet statistique relativement à un certain type de situation, mais vous n'avez pas des causes. Voilà.
Mais, encore une fois, je ne pense pas que ça dérange beaucoup les biologistes. Et du coup, est-ce qu'on ne pourrait pas simplement dire que si ça, ce sont des effets statistiques, en fait, la cause, dans le cas de la dérive, c'est le faible effectif de la population. À ce moment-là, le contrefactuel fait qu'on a vraiment une cause. Et dans le cas de la sélection, c'est simplement une différence statistique de fitness.
Oui, mais là, on est... on est en train de rentrer... ce qui se passe si on fait ça, bien sûr, les gens parlent comme ça, simplement... Comment dire ? Simplement, c'est une notion de cause qui est assez étrange. On distingue plus... on va être amené à un certain moment avec ce genre de problème à se retrouver dans des cas troubles où justement on va plus savoir sur quelle base on va dire qu'on est dans un cas de dérive ou de sélection, est-ce qu'il va être une cause. Si vous prenez un point de vue causaliste naïf, vous allez dire que la taille des populations est une cause au sens où c'est une condition qui favorise que certains types de phénomènes aient lieu. Ça favorise par exemple que si vous avez, si une population de 10 individus, il y a 5 qui sont tués par hasard par quelque chose, ça peut amener un effet de dérive extrêmement fort. Alors que si vous avez une population large, ça va disparaître sur plusieurs générations, c'est tout. Mais c'est pas la... Je ne sais pas s'il faut reprendre du vocabulaire philosophique ancien, mais on pourrait dire... la taille de la population n'est pas une cause efficiente. Ça se réalise par le fait qu'il y a des individus qui sont qui se reproduisent mieux ou qui sont tués dans certaines circonstances, etc. Et que c'est à travers ces mécanismes-là que les choses se produisent. Donc, il y a, je veux dire, ça n'est pas une cause. La taille de la population n'est pas une cause au même sens où. Alors, bon, évidemment, je ne peux pas toujours rentrer ici dans les détails, mais il faut rediscuter évidemment la question que eux posent, parce qu'ils font des analogies avec effectivement la physique statistique, la mécanique statistique. Mais l'idée, c'est les processus causaux fondamentaux qui ont lieu et qui expliquent l'évolution à la fin. Et si on décrit le détail, c'est bien ce qui se passe au niveau des individus.
Bon, à ce moment-là, c'est ce qui se passe au niveau des molécules. Donc, on peut régresser à l'infini, puisque.
Non, parce que c'est, a priori, non, c'est même l'idée que ce sont les individus. Ben, on décrit, non, de façon explicite, quand on décrit une évolution, on décrit quelque chose qui se passe au niveau des populations. On ne traite pas les populations comme des individus. Donc, on les décrit bien, et c'est à ce côté statistique, parce que ça traite de populations. Donc, les constituants de ces populations sont des individus, et normalement, on suppose que les relations causales, on explique ce qui se passe au niveau des populations par ce qui arrive au niveau des individus. Si vous aviez, ce qu'ils disent à un moment, bon, on ne l'a pas là, mais si on avait la description de toutes les morts des individus, de tous les enfants de tous les individus, etc., on a toute l'évolution d'une population. On la déduit directement. Donc, le niveau où on a la description, disons, si on veut une certaine description complète de l'évolution, c'est au niveau de ce qui se passe aux individus en tant que mort et reproduction, point. Il n'y a pas une espèce de niveau indépendant où les propriétés seraient, ne seraient pas déductibles de ce qui s'est passé au niveau de ces individus. D'accord ? Donc c'est en ce sens-là que c'est causalement, c'est le niveau causal. Bon, mais je vais peut-être être trop longue dans la...
Donc on va faire une petite pause.